m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je le dis avec courtoisie, mais
oui. Avec courtoisie.
Avec courtoisie, bien sûr.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Calme, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Et bonsoir chers auditeurs, bienvenue dans cette édition de Restons Courtois, cette édition du jeudi, cette édition de Valeurs Actuelles. Je suis Marc Hainaut et je suis aujourd'hui en plateau avec Valentin Gore du service politique de Valeurs Actuelles. Bonsoir Valentin.
Bonsoir Marc.
Et nous avons avec nous Laurent Dandrieux, rédacteur en chef culture chez Valeurs Actuelles, auteur notamment de cet ouvrage Le Pessimiste Joyeux aux éditions Fayard, un dialogue que vous entretenez avec votre ami Mathieu Bock-Côté, on y reviendra. Et puis comme on a la chance d'avoir le monsieur cinéma de Valeurs Actuelles, on reviendra aussi sur le Festival de Cannes qui a lieu en ce moment. D'ailleurs, il n'est pas encore terminé, je crois. Beaucoup d'interventions. Un Festival de Cannes peut-être plus politique encore que les précédents par certains aspects. On y reviendra, bien évidemment. Nous recevrons ensuite à 18h30 le député renaissant Charles Rodwell qui a vu sa loi, dite loi philippine, en mémoire à la jeune Philippine Lenoir de Calan assassinée par un Marocain sous OQTF, qui a vu sa loi votée en première lecture à l'Assemblée nationale et votée en première lecture au Sénat. Donc avec le député, nous reviendrons sur cette loi qui pourrait être votée définitivement bientôt, et nous reviendrons aussi sur l'actualité du Bloc central qui, après deux mandats d'Emmanuel Macron, se retrouve avec pléthore de candidats et un socle électoral assez réduit. Donc toutes les questions lui seront posées, et à 19h nous aurons un petit temps de débat avec Nicolas Boutin, notre spécialiste des territoires, qui nous reviendra avec une ou deux histoires assez intéressantes. Nous reviendrons aussi sur les rebondissements dans l'affaire Émile, avec cette tentative d'incendie du domicile des grands-parents du petit Émile. Beaucoup de sujets locaux donc à aborder. Vous pouvez évidemment poser vos questions à l'adresse courriel courtoisie@rc.fr ou par téléphone au 01 46 51 00 85 01 46 51 00 85. Nous poserons pendant l'entretien, nous poserons vos questions évidemment à Laurent Dandrieux, et pendant l'entretien avec le député Charles Rodwell, évidemment nous lui poserons vos questions en direct. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. Bonsoir Laurent Dandrieux. Donc
bonsoir.
Donc Le Pessimiste Joyeux, un ouvrage que vous avez co-signé avec Mathieu Bock-Côté. Vous interrogez Mathieu Bock-Côté, mais vous ne vous privez pas de donner votre avis aussi de temps en temps quand même.
Oui, on a essayé de faire un vrai dialogue et une vraie conversation. C'est l'avantage de faire un livre d'entretien avec un intellectuel qui, par ailleurs, est un ami, en plus d'être un joyeux compagnon, c'est qu'on a une liberté de parole et une liberté d'échange qui est bien supérieure avec quelqu'un qu'on connaîtrait moins. Et puis effectivement, on a essayé, j'ai essayé aussi de le pousser dans ses retranchements parfois sur des sujets sur lesquels il peut nous arriver parfois d'avoir des nuances, voire
ça
même
arrive,
de francs désaccords. Et donc voilà, c'était aussi une manière de rendre le livre plus vivant, plus intéressant, d'aller plus loin. Et c'est toujours aussi un enjeu d'un livre d'entretien, c'est d'essayer de pousser le sujet un peu au-delà de lui-même, je dirais.
En tout cas, je vous connais depuis plusieurs années, Laurent, j'ignorais jusqu'à la lecture de ce livre, ou tout du moins du dossier qu'on a fait Valeurs Actuelles, qu'en réalité, vous avez été là, ou pour ne pas dire en tout cas l'une des portes d'entrée de Mathieu Bock-Côté sur la scène française. Est-ce que vous pouvez revenir un peu là-dessus?
C'est une grande polémique qui agite Paris en ce moment. Qui a découvert Mathieu Bock-Côté? Nous sommes un certain nombre à revendiquer la paternité. Moi, j'arrive un tout petit peu en retard par rapport à des gens comme Jean Sevilla, qui je crois était le premier, parce que il avait un reportage à faire sur le Québec qui lui a permis de le rencontrer, Mathieu, très tôt. Mais moi effectivement j'ai été un des premiers à faire sa connaissance, et je crois d'ailleurs que l'on peut affirmer que Valeurs Actuelles est le premier magazine à avoir mis Mathieu Bock-Côté un jour en couverture sur sa une. Donc on a été assez pionniers là-dessus. Ça tient aussi à une particularité de Mathieu qui est assez étonnante dans un vis-à-vis du monde intellectuel français où les gens ont tendance à se regarder volontiers en chien de faïence avec une pointe de jalousie, de rancœur. Mais pourquoi lui est-il plus célèbre que moi? Enfin, ce genre de ce genre d'attitude malheureusement assez typiquement française.
Assez courante.
Et Mathieu, très jeune, a pris l'habitude quand il lisait un livre, et Dieu sait qu'il en lit, et Dieu sait qu'il lit des livres publié en France.
Et bien Dieu sait qu'il retient ce qu'il lit en plus.
Et en plus, il retient ce qu'il lit, c'est très, il est très agaçant.
Mais il est parfait, cet homme-là, c'est désespérant.
Quand il admirait un livre ou qu'il y avait trouvé quelque intérêt, eh bien de prendre son ordinateur et d'envoyer un courriel à l'auteur, même s'il ne le connaît pas.
Et ça, c'est une très bonne habitude, parce que généralement, on reçoit souvent des plaintes de lecteurs, de gens qui sont en désaccord avec ce que vous écrivez. Ça arrive, parfois c'est justifié, parfois non. En revanche, c'est vrai que c'est plus rare de recevoir juste de prendre la plume pour dire des choses positives.
Pour vous féliciter, vous disent « Oh, ben, je suis sûr qu'on vous l'a dit 12 fois », mais en fait, non, il y a très peu de gens qui prennent la peine de vous écrire et donc de briser cette solitude un peu de l'écrivain ou de l'essayiste. Et lui le fait très volontiers, et donc c'est en 2010, alors qu'il était totalement... personne en France, je crois, ne connaissait son nom, que Mathieu m'a eu la gentillesse de m'envoyer un courriel pour me féliciter sur mon premier livre, qui était un essai sur Woody Allen, Portrait d'un anti-moderne.
Absolument.
Voilà, et de fil en aiguille et de courriel en finalement voyage à Montréal, une amitié est née, dont ce livre est l'un des produits.
Vous avez justement évoqué Mathieu Bocoté en disant que justement le fait qu'il venait d'une province lointaine, le mettait un petit peu en dehors de tous ces petits conflits, un petit peu d'ego, etc. C'est un peu ça qu'il a apporté, Mathieu Bocoté, c'est une espèce de vent de fraîcheur, finalement un point de vue à la fois proche et à la fois éloigné de ce que peut être la droite, ces querelles de chapelle, ces querelles presque de syndic d'immeuble.
Oui, il a apporté beaucoup de choses, à la fois sur la forme et sur le fond. Sur la forme, parce que, bon, d'abord, il y a cette nature qu'on lui connaît, extrêmement joviale, extrêmement pleine de faconde et de verve. Il y a aussi le fait qu'en tant que Québécois, il provient d'une culture très pragmatique. C'est une société qui est encore très proche de ses racines paysannes. C'est une société très égalitaire, sans grande bourgeoisie, sans aristocratie. Et donc, c'est une société qui, probablement, s'est épargnée. Les Français ont d'énormes qualités, mais parmi leurs petits défauts, ils peuvent avoir une certaine tendance au snobisme, et je pense que les Québécois en sont à peu près exempts. Et donc il y a une espèce de bonhomie dans sa manière d'approcher la vie intellectuelle, et puis aussi une façon très très incarnée de voir les choses. C'est-à-dire que les intellectuels français, effectivement, ont un peu tendance, en règle générale, à être des ratus bibliothecus, pour qui la vraie vie n'est jamais le sujet d'une note de bas de page au fond d'un vieux grimoire.
Un peu des dominicains sans transcendance, quoi, en fait.
Mathieu est le contraire de ça. C'est évidemment un brillant intellectuel, mais c'est aussi un extraordinaire bon vivant. Et je dois confesser que c'est les 15 heures d'entretien que nous avons eu pour faire cet ouvrage se sont systématiquement déroulées soit chez lui, soit chez moi, autour d'un plateau de fromage, de charcuterie, d'une très, très bonne bouteille de vin et couronné d'un excellent lagavulin.
Et c'est là où vous êtes bon, c'est qu'on ne sent pas trop l'évolution justement éthylique au fur et à mesure des questions, c'est qu'on sent que tout cela a été relissé.
Il y a eu travail de réécriture et de censure pour lisser un peu certains propos qui avaient tendance à déborder. Mais justement, c'est aussi très agréable, c'est que... Et c'est paradoxal, pour le coup, parce que Mathieu vient d'une société qui déteste le clivage. Et pour autant, il a une parole très libre. Il a moins tendance à se surveiller que nous autres Français qui savons qu'il y a la police des arrière-pensées qui n'est jamais très loin. L'autre chose que je voulais dire qu'il a apporté au débat intellectuel français, et là pour le coup c'est sur le fond, c'est que certes il est québécois, et donc certes la France est la mère patrie, mais il est aussi nord-américain, donc il a un regard très aigu, très aiguisé sur la vie intellectuelle nord-américaine, et notamment il connaît par cœur tous les grands penseurs des États-Unis. Mmh. Et donc il a vu un certain nombre de choses avant que nous ne les voyions en France, et bon, évidemment,
notamment le wokisme,
mais effectivement certaines dérives totalitaires plus généralement de la modernité qui se sont faites jour à travers ce qu'on a appelé à l'époque le politiquement correct, et qui ne sont arrivés en France que plus tardivement. Lui, quand il s'est installé en France aux alentours des années 2022, c'était des choses pour lui qui étaient déjà extrêmement familières et sur lesquelles il a pu nous éclairer de manière extraordinairement pertinente.
Je vais donner la parole à Valentin Gore dans un instant. Simplement, dernière question, justement, parce qu'il tient encore sa chronique, je crois, sur Radio-Canada. Donc, ce qui est au journal de Montréal.
Alors, il a des activités, j'arrive pas à suivre, mais il a plusieurs chroniques écrites et audiovisuelles dans les médias québécois.
Pourquoi est-ce que je posais cette question? C'est parce que, justement, on a l'impression que parfois au Canada, en cas dans la société québécoise, il y a quand même un politiquement correct qui existe. Et se dire que, est-ce que le fait que Mathieu Bocoté continue d'avoir une parole libre dans les médias de son pays, est-ce qu'on peut rapprocher à cela, je ne sais pas, moi, Éric Zemmour sur RTL, est-ce qu'on est sur les mêmes à l'époque, est-ce qu'on est un peu sur les mêmes seuils de tolérance, on va dire,
parce qu'effectivement il est perçu comme abusivement clivant, mais en même temps entouré de quelque chose qui est très précieux pour les Québécois, c'est le prestige du Québécois qui a réussi à Paris. Ouais. Donc ça lui donne quand même une aura incroyable. Ensuite, il y a une chose qui est difficile à comprendre pour nous autres Français, c'est que la question souverainiste est une question qui est essentielle, pas uniquement dans une petite niche électorale comme chez nous, mais vraiment pour l'ensemble de l'opinion québécoise.
Elle n'est pas cantonnée qu'à la droite chez eux.
Elle n'est pas cantonnée qu'à la droite.
Elle est plutôt de gauche aujourd'hui.
Elle est aujourd'hui plutôt progressiste, effectivement, Valentin a raison. Et donc clairement, Mathieu représente l'aile droite du combat souverainiste et indépendantiste au Québec, mais en tout cas pour l'incarnation de cette aile droite, il représente quelque chose d'extrêmement important, et sa voix dans ce débat autour de la question de l'indépendance du Québec est une voix qui porte énormément là-bas, et d'où le temps considérable d'ailleurs qu'il passe. En fait, il a une double vie, hein. Il rentre chez lui le soir en rentrant de CNews, et pour faire des émissions avec le décalage le décalage horaire au Québec.
C'est un monstre de travail.
3 ou 4 fois par semaine. Mais il le fait vraiment très volontiers, dans la mesure où il a parfaitement conscience que si il basculait, j'allais dire, du côté complètement français, et qu'il délaissait ce combat souverainiste québécois, ne serait-ce que temporairement, cette voix-là serait quasiment absente du débat québécois.
Vous êtes bien à l'antenne de Radio Courtoisie dans l'émission Restons Courtois, présentée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Je suis Marc Hainaut, et nous sommes en train d'interroger avec Valentin Gore Laurent Dandrieux, co-auteur d'un livre d'entretien écrit avec Mathieu Bocoté, Le pessimiste joyeux, aux éditions Fayard. Valentin Gore, vous aviez une question ou une remarque à faire à Laurent Dandrieux.
Oui, bien sûr. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce livre parce qu'on apprend finalement à connaître Mathieu Bocoté. Vous dites qu'il est en France de façon permanente depuis 2022. On a l'impression que ça fait beaucoup plus longtemps parce qu'on le voit beaucoup. C'est un personnage très présent. Et comme tous les personnages très présents, on les connaît finalement assez mal. Et notamment, vous racontez très bien cette enfance québécoise, si importante, si touchante aussi, avec ce père très récemment disparu. Donc ça aussi, ça le fonde. Hein. C'est un enfant de la banlieue de Montréal, mais pas la banlieue au sens français, hein, plutôt des banlieues de ces villes américaines avec ses pavillons.
Plus au sens banlieue, plus au sens versaillais, voilà, effectivement. Oui, c'était pour moi très intéressant de montrer tout ça, parce qu'en fait, il est arrivé en France un peu comme un ovni, et je crois que c'est Alexandre Devecchio qui faisait remarquer qu'on ne s'en étonnait pas assez du prodige que ça consiste, en quoi ça consistait, puisqu'en fait, il arrive pour remplacer du jour au lendemain Éric Zemmour, qui était quand même devenu une vedette médiatique absolument considérable, remplacé par un Québécois improbable et inconnu qui s'est révélé connaître la politique française quasiment mieux que personne. Et donc c'était à la fois une manière de savoir effectivement d'où il venait et qui il était, mais aussi de comprendre profondément à travers cet exemple le lien extraordinaire que nous, malheureusement français, nous avons tendance à oublier, qui existe encore entre la population québécoise et ce qu'ils n'appellent plus trop, mais ce qu'ils vivent peut-être encore quand même un peu comme la mère patrie. Et le père de Mathieu, effectivement, est quelqu'un que je n'ai pas eu la chance de connaître, mais d'assez fascinant, parce que c'était une famille où, pour eux, tout ce qui se passait en France, ça se passait aussi chez eux. En fait, ils étaient concernés exactement comme s'ils avaient été français. Il se désolait de je ne sais trop quelle mésaventure survenue à Philippe Séguin et donc il y a quelque chose de très beau et de très extraordinaire dans cette familiarité et cette passion pour la vie française, non seulement dans sa culture, sa gastronomie, tout son art de vivre, mais aussi les moindres détails de sa vie intellectuelle. Et ça, je trouve que j'étais content de raconter ça aussi parce que je trouve que ce livre est, du coup, devient d'une certaine manière une façon de... Je ne voudrais pas paraître moralisateur, mais de nous rappeler, nous autres Français, et moi-même le premier, parce que j'avoue que avant de me lancer là-dedans, je connaissais
assez mal tout ça. Vous n'aviez pas déjà un lien avec le Québec?
Je l'avais, mais je ne l'avais pas suffisamment, et je connaissais très mal son histoire, et Mathieu me l'a fait sentir très gentiment et beaucoup de bienveillance. Mais c'est vrai que je trouve vraiment infiniment dommage que nous ne rendions pas justice d'abord à la fidélité des Québécois à notre égard, et ensuite à cette page d'histoire incroyable que fut la présence de la France en Amérique du Nord et même un peu du Sud. J'aimerais aussi, à travers ce livre, que les Français en tout cas ceux qui se sentent concernés par les questions de souveraineté et d'indépendance, prennent à cœur aussi cette cause de l'indépendance québécoise, non seulement pour le plus grand bien du peuple québécois, mais aussi parce que l'indépendance du Québec, ce serait une manière d'ouvrir un nouveau chapitre de cette plus grande France dont nous avons tous plus ou moins la nostalgie.
Réaction d'un auditeur légendaire, Mathieu Bock-Côté, digne héritier de Pierre Gripari, qui fut un pessimiste joyeux à défaut d'être un optimiste anxieux. merci pour le trait d'esprit. Ça me permet de vous poser cette question, Laurent Dandrieu, parce que on n'est pas assez revenu sur le titre. J'avais presque envie de vous dire, c'est la question qu'on vous a sans doute posée déjà des milliers de fois, mais allez, je vous la pose quand même. C'est quoi un pessimiste joyeux, Laurent Dandrieu?
Alors, c'est le contraire de moi.
Non, alors vous pessimiste peut-être, vous, c'est, moi, ça, voilà, moi, vous êtes sans doute pessimiste.
Non, mais après, c'est en fait une formule que Mathieu a employée dans un de ses premiers livres, où il, brosser son itinéraire intellectuel, il faisait en fait une sorte d'exercice de gratitude vis-à-vis de ses parents, et il parlait de son père comme d'un pessimiste joyeux. Et donc, en lisant ça, je lui ai dit au cours de ses entretiens, mais bon, très bien, ça décrit très bien votre père, mais ça vous décrit sans doute très bien aussi. Mmh. Et donc finalement, au moment de choisir un titre, on a opté là-dessus. Pessimiste parce que effectivement, Mathieu est quelqu'un, comme nous tous, qui est très conscient du fait que nous vivons, d'une part, une basse époque qui n'est pas qui n'écrit pas les pages les plus glorieuses de la civilisation occidentale, que par ailleurs nous vivons une époque aussi qui est où la modernité devient de plus en plus dévorée par ses pulsions liberticides, donc une époque à bien des titres inquiétante, déroutante, qui nous appelle à une forme de résistance, à une forme de combat, et en même temps joyeux. Alors évidemment, concernant Mathieu, pour des questions de
vie, tout simplement,
de tempérament,
incarné, bon vivant, truculent même.
On n'est pas tous égaux sur les questions de tempérament. Mais il y a aussi, je pense, une philosophie de la vie, une philosophie presque politique derrière cela. Et là, pour le coup, je le rejoins complètement au-delà des différences de tempérament. C'est que c'est la conviction que la vie ne se résume pas à la politique et que vous pouvez vivre une période de l'histoire absolument désespérante et en même temps cultiver des amitiés formidables. Vous pouvez trouver que c'était beaucoup mieux avant, mais que quand même il y a des vins français qui restent quand même extraordinairement savoureux à déguster, et peut-être même de mieux en mieux. Et voilà. Et que par ailleurs, ajoutons-y une petite, soyons fous, une petite dimension surnaturelle, c'est que malgré tout, ben on est appelé à une béatitude éternelle. Donc nos misères actuelles qui nous paraissent absolument accablantes arrivera un jour où elles nous paraîtront très peu de choses et peut-être même qu'on pourra se dire qu'elles nous ont préparé à un bonheur d'autant plus grand.
Valentin Gore.
Est-ce que cette joie, c'est pas aussi une forme d'espérance? Alors, il y a des pages intéressantes, évidemment, sur la religion et le rapport complexe qu'entretient Mathieu Bock-Côté avec la foi. Mais l'espérance, en tout cas, dans son projet politique, l'indépendance du Québec, on a l'impression que les souverainistes québécois sont très en avant de la main, ils croient beaucoup, alors qu'en France, les gens de droite, les patriotes au sens large, souvent, sont plutôt des gens désespérés.
Oui.
Je sais pas si vous partagez ce point
c'est
de
vrai,
vue.
C'est vrai.
Et désespérant aussi.
Alors, Mathieu
est ambigu sur cette question de l'indépendance, c'est-à-dire qu'à la fois, alors il est persuadé ça, à 100% qu'il va y avoir dans les années qui viennent un nouveau référendum sur l'indépendance du Québec. Très militant, il est assez confiant sur le fait de pouvoir que l'indépendance l'emporte, mais en même temps, il le dit très clairement que ce sera le référendum de la dernière chance.
Absolument.
C'est-à-dire que si les Québécois ne choisissent pas l'indépendance, la subversion migratoire organisée sciemment par le gouvernement canadien pour noyer le fait français empêchera à l'avenir cette indépendance d'advenir. L'avantage quand même qu'ont les Québécois par rapport aux Français, c'est qu'ils ont un objectif qui est très matérialisable. L'indépendance, voilà, ça se fera ou ça se fera pas, mais on sait que dans quelques années, il va y avoir un scrutin qui va permettre d'en décider. Voilà. Nous, notre défi en tant que Français, il est très beau, mais il est quand même moins matérialisable, c'est-à-dire qu'il faut empêcher le délitement ou initier un redressement, c'est-à-dire que c'est un peu vague dans son ambition et c'est très flou quant aux moyens dont nous disposons pour l'atteindre. Donc, il peut
on est
y
plus
avoir
des Acadiens, nous, c'est plus l'exil, de l'exil intérieur qui pose problème.
Oui, mais alors après, en plus, il y a là aussi des questions de tempérament. Et je pense qu'en politique, il y a deux tempéraments. Il y a les gens qui pensent que puisque c'est nécessaire, bah, ça va devenir forcément possible et que ce qui est nécessaire va forcément advenir. Et puis il y a les gens, les disciples un peu de Monterland. Non, j'avoue que moi je suis plutôt de ce côté-là. Les gens qui pratiquent le service inutile, c'est-à-dire bon, on n'est pas bien sûr qu'il y ait beaucoup de chances que ça réussisse, mais c'est pas grave.
C'est encore plus beau quand c'est inutile.
Et on est là pour essayer. Notre devoir, c'est d'essayer. Et voilà. Mais c'est vraiment des questions de tempérament.
Ouais. Sur les questions de souverainisme, moi, ça m'a toujours laissé les rares. Alors moi, j'en ai eu beaucoup moins que vous, évidemment, des discussions avec Mathieu Bock-Côté. Mais moi, sur la question du souverainisme, ça m'a toujours amusé. J'ai jamais posé la question, lui, mais j'avais envie de lui poser, vous avez peut-être évoqué ça avec lui, mais par exemple, l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Si les néo-calédoniens demain avaient un référendum sur une indépendance de la France, est-ce que tu penses que ce serait souhaitable, que ce serait une bonne chose, ou est-ce que le souverainisme a des limites, en quelque sorte?
Alors, je pense qu'il serait tout à fait, Mathieu serait tout à fait disposé à reconnaître intellectuellement que le souverainisme a des limites. Ensuite, sa passion pour l'indépendance québécoise est élargi à sa passion pour la problématique des petites nations par rapport soit aux empires, soit aux nations plus puissantes qui les dominent, fait que il a un tropisme pro-indépendantiste à peu près universel. Et alors c'est une de nos querelles régulières, c'est-à-dire que je sais que je vais faire bondir non seulement Mathieu Bock-Côté, mais beaucoup d'auditeurs de...
N'hésitez pas à réagir à ce que va dire Laurent Dandrieu.
Personnellement, j'ai un attachement très très fort au Royaume-Uni et je ne suis pas du tout partisan de l'indépendantisme écossais. Évidemment, Mathieu a la position rigoureusement
irlandais,
inverse.
Irlandais peut-être
Irlandais, c'est plus compliqué. Mais voilà, c'est vrai que Mathieu a tendance à considérer que l'indépendantisme des petites nations est une bonne chose en soi, tout en ayant conscience que effectivement il y a aussi des forces de dissolution qui travaillent les vieilles nations occidentales, qui ne sont pas forcément des choses politiquement très positives.
Il serait plutôt dans le camp de Jean Raspail et de sa passion pour les peuplades disparues, style l'âge des steppes, à aller chercher les reliquats des dernières civilisations enfui, ou ça reste essentiellement vivant chez lui.
C'est sûr que quand vous êtes, quand vous grandissez comme lui dans un pays qui est en fait un pays qui est sur le mode de la survivance, vous développez une sensibilité tout à fait exceptionnelle aux menaces existentielles qui pèsent sur les peuples et sur leur culture. Ce qui est intéressant, en tout cas, qu'on se place du point de vue de Raspail, du point de vue de Mathieu Bock-Côté, où moi, c'est une problématique que j'ai beaucoup envisagé à travers l'approche de Jean-Paul II et de la Pologne, de toute façon le rôle absolument crucial de la mémoire et de l'histoire pour la survivance des nations. Et ce qui est fascinant pour moi dans le cas de la Pologne notamment, qui est celui que je connais le mieux, c'est de voir comment une nation qui a été rayée de la carte pendant près de deux siècles a réussi malgré tout à survivre sans plus aucune structure étatique, uniquement parce qu'il y avait d'autres institutions, et en l'occurrence notamment l'Église, qui ont servi de conservatoire mémoriel et qui ont
permis la langue, la culture,
et qui ont permis à ce peuple effectivement de conserver ce patrimoine suffisamment longtemps pour que le jour où les conditions de l'indépendance ont été retrouvées, la nation puisse renaître. C'est quelque chose qui peut durer. Qui peut durer quelques siècles, mais pas beaucoup plus. Et donc, évidemment, ça n'oblitère pas la question de la souveraineté politique. Mais je pense qu'en tout cas, l'avantage aussi des petites nations, c'est de nous rappeler non seulement l'importance de la culture, mais aussi la fragilité des civilisations et des cultures, et des petites nations et des grandes aussi d'ailleurs, parce que quand on voit qu'aujourd'hui l'Égypte n'est plus qu'un sujet de musée, ça fait un peu réfléchir sur l'importance de pérenniser non seulement la culture mais aussi la politique.
Valentin Gore pour Laurent Dandrieu.
Bah, ce que vous dites sur ces petites nations, hein, la petite nation concept évidemment de Kundera, qu'Alain Finkielkraut a beaucoup cité aussi.
Et que Mathieu cite beaucoup aussi dans son livre.
Oui, bien sûr.
Qu'il a découvert grâce à Kundera, effectivement.
Bien sûr, on le comprend. Parce qu'il y a un voisinage très direct, c'est la langue. Vous en parliez pour la Pologne. Il y a évidemment à Paris, sur l'île Saint-Louis, cet institut polonais qui est très intéressant de ce point de vue. Le Québec, c'est l'archétype de ça. C'est le pays qui défend vraiment le plus la langue française, beaucoup plus en tout cas qu'en France, c'est certain, avec notamment cette réglementation pour les titres d'œuvres. Alors ça m'amuse de savoir, vous qui êtes évidemment le cinéphile qu'on connaît et qui avait aussi ce goût pour les pays, notamment pour le Royaume-Uni, vous l'avez dit, et donc pour la langue anglaise, est-ce que vous trouvez intéressant qu'on traduise aussi littéralement, comme le font les Québécois, les titres de films en français donc?
Je suis très énervé par la manie française actuelle de garder les titres anglo-saxons de manière systématique. Ça me paraît bah, tout simplement un signe de soumission culturelle absolue. Le problème des titres québécois, c'est qu'ils ont tendance à faire des traductions littérales qui sont un peu farceux, j'allais dire, parfois. Mais non, il faut. Je pense que c'est absolument impératif de traduire et en plus alors parfois ça donne des résultats catastrophiques et complètement ridicules et notamment tous les films italiens des années 60 en français étaient traduits par des titres tous plus ridicules les uns que les autres mais parfois on se retrouve avec des titres français qui sont encore plus beaux que les titres originels et pourquoi pas.
On va dernière question sur le livre justement Laurent Dandrieu, Mathieu, c'est ça qui est amusant quand on lit Mathieu Bock-Côté, c'est quand il explique un peu d'où il vient culturellement, c'est que il vous cite tous les auteurs classiques, tous ceux qui l'ont façonné littéralement parlant, et quand il va parler de culture cinéma, il va dire, en bon nord-américain, il dit, j'ai grandi avec Chuck Norris, Sylvester Stallone et Schwarzenegger, quoi. C'est un peu cette synthèse de tout ça qui,
Mais alors là, c'est une question, là encore complètement de tempérament, parce que Mathieu avait un père qui, lui, était, extrêmement cinéphile et a essayé de lui transmettre ça aussi en lui montrant des films de Dreyer et de Bergman. Avec le petit Mathieu, ça n'a pas marché du tout et il souffrait intérieurement tout en pensant rendez-moi Chuck Norris, quelqu'un qui tue des méchants.
C'est ça.
Voilà. Donc,
plutôt que des gens qui nous tuent d'ennui.
Donc c'est une de mes divergences avec Mathieu. J'ai tendance à préférer Fellini à Chuck Norris, mais bon, on peut pas être d'accord sur tout.
Témoignage d'une auditrice, j'ai eu l'occasion de passer au Québec lors d'un voyage en Amérique du Nord et quel plaisir de découvrir cette population si accueillante et chaleureuse. J'ai rêvé d'y habiter en dépit du climat. Vous qui êtes allé, Laurent Dandrieu, le climat du Québec, pour terminer.
C'est vrai qu'il est rude, et ne nous le cachons pas. Il faut supporter les hivers très longs et très rigoureux. Après, c'est un pays magnifique. Les gens sont absolument charmants. Il y a peut-être une réserve, j'en parle, je me permets d'en parler parce que Mathieu en a parlé lui-même plusieurs fois. Ils ont une culture beaucoup plus familiale amical et donc ils sont à la fois très accueillants, très chaleureux et très sympathiques, mais c'est peut-être une société dans laquelle il est plus difficile, y compris pour un Français, de s'insérer facilement que pour un Québécois à Paris.
Merci Laurent Dandrieu, vous êtes bien chers auditeurs sur l'antenne de Radio Courtoisie dans l'émission Restons Courtois, présentée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Je suis Marc Hainaut, je suis en plateau avec Valentin Gore du service politique de Valeurs Actuelles et avec Laurent Dandrieu, rédacteur en chef culture de Valeurs Actuelles. Nous avons parlé de son ouvrage coécrit avec Mathieu Bock-Côté, Le pessimiste joyeux, aux éditions Fayard, un livre d'entretien entre ces deux personnalités que je vous recommande chaudement de découvrir et d'acheter, c'est encore mieux. Petit message de votre radio et puis nous reviendrons toujours avec Laurent Dandrieu sur le Festival de Cannes qui a lieu en ce moment à Cannes, justement.
Chers auditeurs, la campagne de déclaration de l'impôt sur la fortune immobilière touche à sa fin. Savez-vous qu'il est possible de transformer cet impôt en un soutien concret pour Radio Courtoisie ? Grâce à notre fondation abritante, vos dons sont déductibles de votre impôt sur la fortune immobilière à hauteur de 75% dans la limite de 50 000 euros, permettant même de réduire cet impôt à zéro. Si vous souhaitez orienter votre contribution vers nos projets de développement ou si vous connaissez dans votre entourage des personnes désireuses de nous soutenir par ce biais, devenez nos ambassadeurs. Pour connaître la marche à suivre, contactez dès aujourd'hui notre directrice administrative Amandine Sicot en appelant au 07 85 55 90 91 ou au 01 46 51 00 85 ou en envoyant un courrier électronique à secrétariat@rc.fr. Radio Courtoisie ne vit que par vous. Merci pour votre indispensable fidélité.
Restons courtois, Marc Hainaut.
De retour à l'antenne de Radio Courtoisie dans l'émission Restons courtois, je suis toujours en plateau avec Valentin Gore du service politique de Valeurs Actuelles et Laurent Dandrieu, rédacteur en chef culture de Valeurs Actuelles, également grand critique cinéma très très reconnu. Laurent Dandrieu, il y a le Festival de Cannes en ce moment, vous n'y êtes pas?
Je n'y suis pas depuis plusieurs années. J'y suis allé les 8 premières années de ma mandature de critique de cinéma et c'est très fatigant. C'est une usine à films. On se tape 4 ou 5 projections par jour. On rentre de là absolument lessivé. Et les premières années, c'est très drôle parce que voilà, il y a le côté glamour. Au détour d'un couloir du Palais des Festivals, on tombe nez à nez avec Nicole Kidman. On dit waouh, Nicole Kidman. La deuxième année, on tombe nez à nez avec Nicole Kidman. On dit waouh, tiens, encore Nicole Kidman. Puis la troisième année, encore Nicole Kidman. Et donc voilà, ça c'est. Et puis je dois reconnaître que j'ai été, même s'il y a forcément des très belles surprises et on découvre des cinématographies assez rare, mais la tonalité générale du festival est quand même sinistroïde à un point incroyable. Et c'est, ça me au bout de 8 ans, ça m'était devenu vraiment pénible.
Et vous, Valentin Gore, qui est, on le sait, vous êtes journaliste politique, mais vous avez aussi une bonne culture cinématographique.
Figurez-vous que j'ai travaillé, j'ai fait un long stage à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes, qui m'a permis de découvrir cet environnement.
Je ne savais même pas.
Donc c'est vrai, on se lasse assez vite. Soit j'ai fait qu'une seule édition, et je dois dire que ce qui est un peu pénible à Cannes, c'est qu'on a envie à peu près de tout, sauf d'aller au cinéma, puisqu'il fait beau, il y a la mer, donc et c'est vrai qu'au bout de, il faut être vraiment très cinéphile pour apprécier ces dizaines de films vus les uns après les autres.
Ouais. Après, il y a un côté miracle du cinéma, c'est-à-dire je me souviens d'une journée où j'avais vu déjà 4 films et il fallait que j'envoie un cinquième qui commençait à 23h et qui était un film chinois qui durait 3h45, et ben j'ai réussi à le trouver merveilleux quand même.
Ah oui, voilà. on peut réussir
à conserver cette faculté d'enthousiasme, mais c'est difficile. Après, ce qui est très dur au Festival de Cannes aussi, c'est les sandwichs à 32 €, quoi.
Ça fait des notes de frais absolument insupportables.
Un peu injustifié.
C'est à cause de vous qu'on n'a plus de gobelets à la machine à café, Laurent.
Ça doit être ça.
Au Festival de Cannes dispendieux. Je voulais parler du Festival de Cannes aussi avec vous, Laurent Dandrieu, parce qu'on vous l'avait dit, ça peut être sinistroïde. En tout cas, cette année, c'est devenu extrêmement politique, puisque ce Festival de Cannes a déjà donné lieu à des interventions plus ou moins pertinentes dans le contexte évidemment d'un conflit démarré entre Canal+ et une partie du monde du cinéma. Je rappelle que le patron de Canal+ a déclaré que tous ces gens qui avaient signé cette pétition traitant plus ou moins Vincent Bolloré de nazi, hein, on va rester correct, eh bien ils ne travailleraient plus avec eux. Vent de tempête sur le cinéma, et c'est l'acteur Gilles Lellouche, en pleine promotion de son film sur Jean Moulin, qui a été pris à partie par un journaliste. Je vous propose d'écouter l'extrait.
Donc je suis Yazid du média Parole d'honneur, et donc l'année prochaine se dérouleront les élections présidentielles en France. Le Rassemblement national, fondé par certains des collaborateurs de Klaus Barbie, traître à leur nation, ont une chance d'arriver au pouvoir. Pensez-vous qu'il est aujourd'hui primordial, pour ne pas trahir la mémoire de Jean Moulin, de combattre résolument le Rassemblement national? Pensez-vous également que la France insoumise majoritaire à gauche est aujourd'hui le meilleur rempart à l'extrême droite, son programme étant aussi inspiré du programme du Conseil national de la Résistance? Question pour Gilles Lellouche, s'il vous plaît.
Elle n'est pas un tout petit peu orientée, votre question, non? J'ai pas de réponse à ça, monsieur.
Je sens qu'on n'est vraiment pas là pour commenter la politique française. Moi, je sens qu'on a fait ce qu'on a pu pour rendre hommage à Jean Moulin.
Voilà, alors tout.
C'est vrai que c'est hallucinant cette séquence.
C'est quand même totalement aberrant. Alors déjà, on apprend beaucoup de choses. Bon, déjà que la France insoumise, au fond, c'est le Conseil national de la Résistance.
Voilà.
C'est
littéralement que Jean Moulin aurait voté Mélenchon. C'est quand même une information intéressante.
On sait tous que son secrétaire, d'ailleurs, Monsieur Cordier, était un homme d'extrême gauche, d'ailleurs, comme chacun sait.
C'est d'ailleurs, enfin, je trouve assez hallucinant que pseudo-journaliste qui est en fait un militant politique.
Décolonial, absolument. Je précise, vous avez raison, que le site Parole d'honneur est un site décolonial, d'extrême-gauche, ultra-gauche, qui appelle à la violence, qui se réjouit de la mort des militants politiques. Enfin voilà,
ça fait quelques années que je ne suis pas allé au Festival de Cannes, mais à l'époque où j'y étais, il y avait une hiérarchie dans les journalistes accrédités. On avait des pastilles de plus ou moins grande couleur, et comme les salles de conférence de presse ne sont pas extensibles, il fallait être vraiment dans la première catégorie pour avoir le droit d'assister aux conférences de presse. Donc qu'on ait laissé rentrer un type comme ça pour poser une question pareille, j'ai trouvé très intéressante. En plus, ce qui est hallucinant, c'est qu'il y a certains médias qui se sont permis d'insulter Gilles Lellouche suite à cette réponse en disant qu'il s'était dégonflé, alors qu'en fait, il a juste fait remarquer à juste titre que cette question était absolument absurde et n'avait pas lieu d'être.
Il y a eu un article du Huffington Post, effectivement, voilà, qui a repris parce que la réaction de l'ultra-gauche suite à cette sortie de Gilles Lellouche était de le renommer Gilles Lelâche. Voilà.
Et j'ai trouvé intéressante aussi la réponse dont on a entendu juste le début du réalisateur, qui est un réalisateur hongrois, donc qui a grandi dans la Hongrie communiste et qui lui a dit que bon, la politique française, ça l'intéressait pas beaucoup. Lui, ce qui l'intéressait, c'est les questions de liberté individuelle, et qu'il y était très attaché parce qu'il avait grandi dans un pays où dans les écoles, vous étiez obligé de chanter des hymnes staliniens. Donc j'ai trouvé que c'était une manière de recadrer le débat aussi qui était intéressante. Mais c'est vrai que ce qui est assez étonnant avec cette édition du festival, c'est que finalement, on a presque moins parlé des films que de cette pétition absurde anti-Bolloré, qui est vraiment quelque chose de d'aberrant, puisque je pense que c'est un exemple parfait de à la fois de l'infantilisme, de la déconnexion et de l'arrogance d'un certain milieu du cinéma, une partie, hein, parce que le Figaro s'est amusé à décrypter les 1200, qui sont 1200 maintenant signataires. Il y a d'abord très peu de noms qui disent quelque chose à quiconque, et ensuite il y en a une large partie qui ne bosse pas effectivement dans le cinéma.
Ouais.
Mais ce qui est incroyable, c'est qu'effectivement ces gens vous disent c'est atroce, Canal+ est entre les mains d'un crypto-fasciste. Bon, mais en même temps, on est bien obligé de reconnaître que pour le moment, ils nous laissent tranquilles et que on peut tourner absolument ce qu'on veut. En plus, ces imbéciles ont choisi pour signer cette pétition, cette édition du Festival de Cannes, où le nombre de films produits par Canal+ est plus important qu'aucune autre année, et des films vraiment, mais d'une diversité politique,
oui, il est difficile de voir l'empreinte de Vincent Bolloré,
il n'y a aucune espèce de ligne directrice imposée par Canal à ses coproductions. Donc on est vraiment dans une absurdité totale, et en plus, enfin, moi, il y a une chose qui me frappe beaucoup dans le cinéma français depuis quelques années, et notamment dans ces scénarios, c'est une quasi disparition du bon sens. Très souvent, vous voyez un film, au bout de 10 minutes, vous dites, mais comment, quand ils ont présenté le projet, il n'y a pas quelqu'un dans la salle qui s'est levé et qui a levé le doigt en disant, non, mais c'est idiot, enfin, on va pas faire un film là-dessus, ça n'a aucun sens. Et là, on voit bien l'absence de bon sens, c'est-à-dire qu'ils mordent la main qui les nourrit sans leur rien leur demander
en retour.
La main qui les nourrit, bah, finalement, j'ai peut-être plus trop envie de vous nourrir puisque vous me traitez de fasciste. Et ils disent, ah, bah, ça prouve bien qu'on a eu raison de les mordre. Enfin, on est dans une débilité totale, et qui, je pense, non seulement va se retourner probablement, et je l'espère, contre les signataires de la pétition, mais qui va se retourner aussi contre le cinéma français dans son ensemble, parce que ça donne une image de la profession qui est au-delà de la caricature.
Alors moi qui suis à votre différence, messieurs, très peu cinéphile en tout cas, moi je suis l'archétype du bon public en matière de cinéma, tant que c'est divertissant, ça me plaît. J'ai quand même suivi un petit peu
j'ai glissé.
Ben voilà, ça vous voyez, je trouve ça génial. Bref, j'ai en tout cas suivi quand même un petit peu la suite de cette affaire, on va pas appeler ça l'affaire Lellouche, mais tout le monde aura compris. Eh bien, une jeune consoeur du média en ligne Brut, et sans doute inspirée par la saillie de son confrère de parole, du journaliste, on va l'appeler comme ça, de parole d'honneur, eh bien, est tombé sur les marches du festival, sur Mathieu Kassovitz, vous savez, cet acteur extrêmement engagé, très très engagé à gauche, pour ne pas dire à l'extrême gauche. Eh bien, elle s'est dit, chouette, Mathieu Kassovitz, je vais lui poser la question, que pensez-vous qu'il y a un problème avec Canal+, écoutez la réponse de l'acteur.
Je pense que Canal+ fait bien son boulot, pour l'instant, et qu'on devra gueuler quand Canal+ ne fera pas bien son boulot, mais pour l'instant, ils le font très bien.
Alors, déjà, première déconvenue pour cette journaliste, oui. Elle s'est dit, chouette, Mathieu Kassovitz va nous sortir une tirade, et en fait, Mathieu Kassovitz, non, mais tout va bien avec Canal+, mais vous allez écouter cette deuxième séquence un peu plus longue, vous avez vu, la journaliste ne se décourage pas. Écoutez-la.
Je vais aller assez droit. Sans cette question, vous avez toujours eu une parole assez libre sur le cinéma français, sur l'industrie. Je suis obligée de vous parler de cette tribune qui a été signée par 600 personnes contre l'emprise de Bolloré sur le cinéma. Qu'est-ce que vous pensez de cette inquiétude ?
C'est pas le bon endroit pour en parler là, maintenant, là, je dois partir, ça demanderait une bonne discussion. Moi, je suis en tant que cinéaste, pour l'instant, je pense qu'aucun cinéaste n'a été censuré pour financer ses films par Canal+. Je pense que Canal+ fait bien son boulot, pour l'instant, et qu'on devra gueuler quand Canal+ ne fera pas bien son boulot, mais pour l'instant, ils le font très bien.
Alors, ce qui est fascinant, c'est qu'en plus, je savais que la séquence à écouter en radio allait être un peu longue, donc j'ai volontairement coupé les E et les blancs faits par Mathieu Kassovitz. Honnêtement, j'en ai laissé exprès pour quand même qu'on se rende compte un petit peu de la gêne du comédien, mais j'en ai quand même enlevé pour que ce soit audible. Tout est dit, je pense. Oui, elle est magnifique, cette séquence. Roland Mandrieux puis Valentin Gore.
Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que c'est un des aspects complètement grotesques de cette pétition, c'est l'hypocrisie des signataires qui disent, ah ben non, mais c'était pas du tout Canal+ qui était vidé. C'est visé, c'était Bolloré, comme s'il y avait aucun rapport entre Bolloré et Canal+. Et donc, il y a une forme d'hypocrisie, une forme de lâcheté qui est absolument... Puis en fait... c'est toujours le même problème, c'est des gens qui s'inventent une résistance d'opérette pour avoir l'impression d'être les Jean Moulin de leur époque. Ce que je trouve fascinant, moi, c'est que si demain, ce qu'à Dieu ne plaise, Adolf Hitler ou Joseph Staline reviennent, mais quels mots ils vont employer pour les décrire, en fait. Ils ont déjà usé les mots de résistance, de fascisme, de nazisme, ils les ont usés jusqu'à la corde, et c'est d'une débilité, mais sans nom, c'est effrayant.
C'est ce que Karl Marx appelait mettre une claque à sa grand-mère, Valentin Gore, je vous en prie. Et sur l'affaire Lelouch, je ne vous ai pas entendu sur cette affaire.
C'est très intéressant que ça soit sur un film à propos de Jean Moulin. Vous avez rappelé son secrétaire Daniel Cordier, je le dis clairement, parce que après tout, il a renié ensuite cet engagement, mais il était à l'Action française, effectivement, en 1940, absolument. comme beaucoup de gens qui sont allés, par exemple, à Londres et qui ont résisté en France. Sur ce film de Jean Moulin, moi, ce qui me frappe, c'est cette gauche proche de LFI qui essaie de reprendre la mythologie originelle du Festival de Cannes, qui, c'est vrai, a été créé en opposition à la Mostra de Venise, qui était à l'époque sous le régime de Mussolini. Donc c'est plutôt une manifestation qui vient du Front Populaire, de Jean Zay. Mais effectivement, reprendre ces mots, toujours les mêmes, de fascisme, comme ça sur la croisette, ça n'a aucun sens. Et la réaction de Mathieu Kassovitz, qui est certes un homme de gauche, mais qui est aussi paradoxalement parfois un homme de bon sens, et qui a... C'est vrai que si j'étais journaliste de gauche, c'est pas vers lui que j'irais spontanément, parce que parfois il peut être très très surprenant dans ses réponses et pas toujours attendu, mais on voit cette volonté de tout politiser. Alors bien sûr, le cinéma est politique, évidemment, il s'agit pas de dire que c'est un divertissement, mais avec des mots, on a l'impression de collégiens, vraiment de collégiens qui s'amusent et qui emploient des mots complètement délirants.
Ce que je trouve intéressant, et que finalement on se dit qu'avec cette histoire le diable va peut-être porter pierre, c'est que contrairement à ce que prétend Libé dans ses dernières éditions, le monde du cinéma ne fait pas du tout front derrière les signataires de la pétition. Ils sont innombrables, les metteurs en scène qui disent « moi je dois tout à Canal+, sans Canal+, mon œuvre. »
Dominique Farrugia notamment a fait une sortie publique
Jeanne Herry l'a dit aussi en conférence de presse à Cannes. Et donc peut-être que l'extrémisme débile de cette petite minorité qui a signé la pétition va, par contraste, remettre un peu les pieds sur terre à l'ensemble de la profession et lui permettre de sortir enfin de certaines postures pseudo résistentialistes à la noix qui n'ont aucun sens et qui agacent tout le monde et qui détériorent profondément l'image du cinéma français.
Mais est-ce que vous pensez, du coup, messieurs, que ça peut aussi marquer cette séquence, là, ce festival de Cannes qu'on est en train de vivre, et va peut-être marquer un coup d'arrêt aussi à une forme de gauchisme sans scrupules et sans frein qui sévit sur le monde du cinéma. Est-ce que justement, le fait que Lelouch, qui est quand même un acteur qui avait signé des tribunes hein, contre le Rassemblement National, il fut un temps, est-ce que justement ces acteurs, ces grands noms du cinéma pourraient en profiter pour s'affranchir aussi de ce diktat où on sait, enfin pour en connaître certains, que la plupart tombent aussi dans ce récit politique pour dans l'esprit de sauvegarder leur carrière dans un milieu qui est très très politisé.
Ouais. Je sais pas, je veux pas être trop optimiste non plus. Je pense que on peut espérer que qu'il sorte quelque chose de positif de cette histoire et que ce soit une espèce de tournant dans cette espèce de gauchisme automatique. En même temps, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Je pense aussi que il serait bien que la droite nationale apprenne à être un peu plus subtile dans ses critiques du milieu de la culture et perdre cette mauvaise habitude qu'ils ont parfois de même jeter tout le monde dans le même panier, parce que ça n'aide pas aussi les gens qui se sentent un peu moins à gauche et un peu moins progressistes. C'est pas en les rejetant dans la GN wokiste sans jugement qu'on va les aider à se libérer de cette emprise là.
Mais il faut la nuance des deux côtés, quoi.
Donc il faut de la nuance, évidemment. Mais en tout cas, oui, je pense que on vit une séquence intéressante, que ce soit à travers ça, mais que ce soit aussi à travers
le
rapport à l'oncle, où on a quand même réussi à imposer dans les esprits l'idée que le pluralisme culturel était nécessaire et qu'il était loin d'être toujours au rendez-vous. Donc il y a, je ne dis pas qu'il y a un tremblement de terre, mais il y a une petite tectonique des plaques qui est en train peut-être de se déclencher de ce point de vue-là.
Valentin Gore.
Oui, et puis peut-être terminer par ça, on a envie aussi d'en revenir au cinéma, parce que il y a beaucoup de cinéphiles, tous les cinéphiles de France sont un peu à Cannes dans leur tête. Les gens, il y a encore beaucoup de gens, enfin en tout cas, ça fait quand même une confrérie importante, qui vont au cinéma parfois 2-3 fois par semaine, qui ont envie de savoir ce qu'ils vont découvrir au cinéma dans l'année qui vient, qui ont envie d'avoir des débats de fond sur des films, de savoir. Je voyais Laurent, alors j'allais dire vos confrères de Télérama, j'ose même pas employer ce mot, confrères qui, au sortir de la projection de Moulin, se prennent en vidéo devant le vieux port de Cannes et qui ne parlent absolument pas du film, qui se contentent effectivement d'évoquer des choses politiques en disant « Ah oui, on a pris Moulin par le côté, on l'a pas assez affirmé politiquement, on en a fait un personnage éthéré. » Oui, mais on a aussi envie de savoir si c'est un bon film, si c'est un film qui va rester.
Oui, on ne savait pas que c'était le service politique de Télérama qui allait voir les films, mais pas le service culture, quoi, en fait.
C'est tout le temps ça, et c'est vraiment pénible, parce que le cinéma est évidemment un art, et on a souvenir, à Cannes, il y a eu vraiment de très grandes heures, sans revenir à la Palme d'Or pour le Guépard, ou même à Piala, il y a eu des jurys absolument fabuleux à Cannes, et c'est vrai que depuis quelques éditions, on a le sentiment que toute cette passion française pour le cinéma est mondiale, parce que Cannes est quand même le premier festival mondial de cinéma encore aujourd'hui, et quand même a du plomb dans l'aile, j'allais dire, pour la palme.
Mais après, moi j'assume assez volontiers de faire une critique qui a une dimension politique, c'est-à-dire en intégrant notamment non seulement la qualité esthétique des films, mais aussi la qualité morale. Mais je pense qu'en fait le seul problème, c'est que absolument tous mes confrères font pareil, mais que les autres, eux, ne le reconnaissent pas. Voilà. Et je suis très fasciné de voir que, enfin, par exemple, dans l'IB, c'est très courant de voir critiquer une comédie française qui met en scène une crise de couple, et alors à la fin de la critique, on découvre que le film est mauvais parce que les époux se sont remis ensemble. Alors c'est vraiment trop moraliste, quoi. Donc du coup, le film est est épouvantable. Mmh. Et donc, c'est vrai que il y a une hypocrisie sur, ouais, sur la manière de juger les films qui est absolument désastreuse. Par ailleurs, je pense que l'absence d'exigence critique aussi de mes confrères est en partie responsable aussi de la désaffection vis-à-vis du cinéma français. Mmh. C'est-à-dire qu'à force de répéter que absolument tous les films sont géniaux, ben les gens se disent bon ben on va plus trop écouter ce qu'ils nous disent.
Mais en fait, on le voit, alors vous avez parlé effectivement de la baisse de fréquentation des cinémas, alors peut-être que l'augmentation, forcément, il y a moins il y a de public, plus les prix des places augmentent, et donc enfin, c'est un petit peu, il y a sans doute un cercle vicieux à ce niveau-là, quand on voit le peu de téléspectateurs devant les Césars aussi, quand on voit justement la baisse d'intérêt, on s'aperçoit qu'en fait, il n'y a toujours pas eu de remise en question, voire même que c'est de pire en pire, et ça me fait penser toujours à cette phrase de Mathieu Bocoté, il suffit qu'elle soit contestée pour que la gauche se sente assiégée, et finalement se recroqueville totalement sur elle-même.
Moi, ce que je trouve mais absolument fascinant dans ce débat-là, c'est que quand on parle de la crise de la fréquentation, bon, là, en ce moment, il se trouve qu'il y a un léger mieux depuis le début de l'année, mais quand on parle de la crise de la fréquentation, on va toujours mettre en avant des facteurs exogènes aux critères artistiques. Le Covid, le prix des places, l'actualité internationale, la Coupe du Monde de football.
Oui, on a l'impression d'entendre les macronistes défendre le bilan de Macron.
On ne parle jamais de la qualité des films. C'est effrayant, quoi. Enfin, tout simplement, moi, je suis désolé, mais il y a encore 3-4 ans, je restais très enthousiaste vis-à-vis de ma profession de critique de cinéma, et maintenant j'ai plus qu'une envie, c'est que ça se termine, parce que les trois quarts des films sont ennuyeux à mourir, et alors en plus les trois quarts des films, non seulement ils sont ennuyeux à mourir, mais ils sont ennuyeux pendant 3h45. C'est-à-dire que la durée des films a subi une inflation ces dernières années absolument incroyable, qui en plus est désastreuse pour la fréquentation, parce qu'un film de 3h15, bah, ça fait au moins une séance de moins par jour. Ensuite, quand vous avez envie d'aller le voir, bah, faut réussir à le caser dans votre planning de la journée, c'est pas évident. Et donc, effectivement, il y a vraiment très peu de remise en cause sur la qualité. Je mets tout de suite un petit bémol quand même, c'est que il y a ces dernières années dans le cinéma français une tendance qui me paraît assez puissante et assez intéressante, c'est une forme de retour au réel. C'est-à-dire que le cinéma français s'est un peu éloigné de Saint-Germain-des-Prés pour s'intéresser aux médecins de province, pour s'intéresser aux agriculteurs, pour s'intéresser aux vrais gens. Ça donne pas toujours des chefs-d'œuvre.
Mais c'est vrai que ça fait souvent des films qui sonnent juste, même si on a, c'est pas le point de vue du cinéaste parisien sur l'agriculteur français de manière grossière, fantasmée.
Entre ma maîtresse et l'autre maîtresse et l'amant de ma maîtresse. donc il y a à la fois une diversité de sujets qui est plus grande, un souci d'ancrage dans le réel qui est plus grand. Ça, c'est une tendance qui est intéressante, qui pour moi est des rares signes d'optimisme vis-à-vis de l'évolution du cinéma français.
Valentin Gore.
Non, je crois que tout est dit. C'est vrai que on a envie d'y croire. On a envie d'avoir de nouveau un cinéma français qui sorte de débats uniquement partisans. Et encore une fois, bien sûr que tout le cinéma est très politique et ô combien. Et on s'en souvient. Vous parliez de Gilles Lellouche déjà avec Bac Nord. Hein, souvenez-vous, ça avait fait une polémique terrible.
Le simple fait
de faire un film avec des policiers qui sont pas des salauds, qui sont des gens avec leur complexité, c'était déjà effectivement pour la gauche quelque chose d'insupportable. Et je me souviens que cette année-là, puisque c'est celle où je me trouvais à Cannes, la Palme d'Or était revenue à ce film d'une réalisatrice dont le nom m'échappe, Titane, c'est ça, qui est un film effectivement qui vient de
Julia Ducournau, je crois.
Voilà, absolument, qui vient de la gauche radicale, hein. Donc il y avait déjà ces affrontements-là.
Mais après, je vais élargir un peu aussi au sujet de la culture en général, parce que moi je suis assez inquiet de l'état de la littérature française.
Vous nous relancez une thématique d'une heure là, Laurent.
Non, mais juste pour dire que en fait, la crise du cinéma, c'est, je crains que ce soit aussi un symptôme d'une forme d'épuisement narratif occidental. Là, je suis pessimiste et pas très joyeux, mais on a d'excellents metteurs en scène, on a d'excellents acteurs, il y a une pauvreté de scénario très très forte, et on a l'impression que les gens ne savent plus où puiser de nouveaux narratifs. Ce qui est très frappant, c'est la prédominance de l'autofiction, c'est les faux romans, c'est-à-dire les types qui vous écrit un bouquin sur les derniers jours de Flaubert en romançant vaguement, en inventant deux anecdotes. Et en fait, malheureusement, ça devient de plus en plus rare.
Oui, il n'y a plus d'imaginaire, voilà, en fait. Il n'y a plus de fiction au sens réel.
Et sans parler, alors évidemment, de l'équivalent français qui est malheureusement pour le moment totalement inexistant de ce que les anglo-saxons ont su faire avec Tolkien ou même avec Star Wars, c'est-à-dire créer
des
mythologies ex nihilo. Là, on en est malheureusement très 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 loin.
Et dernière question, Laurent Dandrieu, avant que vous nous quittiez, vous avez quand même vu des films récemment. Là, c'est ce qui sort au cinéma en ce moment. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à nos auditeurs?
Oui, alors moi,
s'il y a un film à aller voir.
J'ai un très bon conseil qui est de ne pas aller voir le nouveau film d'Almodovar qui s'appelle Autofiction, qui est d'un ennui et d'une platitude mortelle. En revanche, il y a plusieurs films qui m'ont beaucoup plu. Un film qui est sur le père Maximilien Kolb, qui raconte donc le sacrifice extraordinaire que le père Kolb a fait au camp d'Auschwitz. C'est un film effectivement pas très léger, mais vraiment très beau et très émouvant. Si on veut quelque chose de plus chatoyant et de plus... alors il y a des aspects un peu sombres aussi, mais c'est quand même Venise, 18e siècle. C'est un film qui s'appelle Vivaldi et moi, que j'ai trouvé absolument remarquable. Et puis, saluons quand même La Vénus électrique, même si j'y vois quand même des défauts. Le film de Pierre Salvadori qui a fait l'ouverture de Cannes, qui est une fantaisie assez allègre et assez bien menée, très bien jouée, notamment par Gilles Lellouche.
Merci Laurent Dandrieu d'avoir été avec nous pour parler de ce livre, Le pessimiste joyeux, écrit avec Mathieu Bock-Côté aux éditions Fayard, et d'être revenu avec nous sur le début de ce festival de Cannes, un festival évidemment toujours très politique. Restez avec nous, chers auditeurs, tout d'abord un petit message de votre radio, ensuite une courte pause, et ensuite nous reviendrons normalement avec le député Renaissance des Yvelines, Charles Rodwell, avec qui nous reviendrons notamment sur l'adoption de sa loi, dite la loi philippine, au Sénat. C'était hier soir, et on viendra avec lui évidemment sur l'héritage que va laisser Emmanuel Macron. À tout de suite.